culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toi, auditrice, auditeur. Je suis bien contente d'ouvrir ce culte espoir en ta compagnie. Nous allons vivre ensemble une heure pour que ce soit encore plus chouette. Je ne suis pas seule. Il y a ici dans ce studio mes amis chroniqueurs brillants.
Salut.
Marilyn.
Salut.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bon, j'espère que comme moi, vous êtes prêts à entrer dans ce temps de culte.
On est prêts.
Bon. Alors, cher auditeur, si c'est ta toute première fois au Culte Espoir, je te souhaite la bienvenue. Sois à l'écoute, il y en aura pour tous les goûts concoctés par nos chroniqueurs, de la musique, des promesses positives pour nous aider à traverser notre quotidien, de l'action, du témoignage, de la prière, un petit tour question-vérité et bien sûr, le temps de notre partage biblique. Et nous accueillons aujourd'hui Eurico Correa.
Bonjour.
Bienvenue à toi dans notre culte.
Merci.
Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs ?
D'une manière très simple, je suis Eurico. Voilà, ça se prononce Eurico, j'accepte Eurico. Okay. Je suis originaire du Cap-Vert, je suis aussi portugais et je suis marié, j'ai 3 enfants. Voilà. Je suis enseignant à la faculté de théologie ici à Collonges. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
C'est déjà bien.
Ouais,
c'est pas mal déjà. Ouais, c'est un bon démarrage. On va aborder aujourd'hui un thème qui est fort intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui. En fait, le titre que j'ai choisi pour la réflexion, c'est « Mes directives ou les siennes ?» Et je m'inspire de l'histoire de Jairus pour vous montrer combien on lui ressemble, en fait, dans nos pratiques quotidiennes, dans notre pratique spirituelle. Voilà. On a l'habitude, des fois, de donner des ordres à Dieu au lieu d'attendre ses ordres.
D'accord. Ok, je me réjouis d'entendre la suite dans quelques instants. Je prie que Dieu soit à nos côtés pendant ce temps spécial. Alors, Marilyn, de quelle façon tu vis avec Dieu dans ton quotidien ?
Eh bien, cette semaine, j'ai envie de partager quelque chose avec vous, effectivement. Ça fait un certain temps que je ne vous ai plus parlé d'écriture, je crois. Dans les premiers cultes, j'en avais souvent parlé. Et c'est vrai que c'est une des façons qui me correspond pour intégrer ce que je lis dans la Bible. C'est de l'écrire dans des carnets, d'écrire les textes, surtout les textes qui m'ont touchée. Et souvent, ça me permet de mettre ensuite quelques commentaires sur ce texte qui m'interpelle dans un moment précis. Et ça semble très simple, mais en fait, il y a quand même quelques réflexions qui me sont venues. La première, c'est un aveu. C'est que des fois, j'ai la flemme. Et même une flémangite aiguë et qui dure un petit peu des fois. Mais pourtant, c'est pas compliqué de tendre le bras et vers le cahier, le stylo. Je vous promets, ils sont à côté. Mais c'est comme si des fois, je boude ou je préfère reporter. Et il me faut parfois quelques jours et même un peu plus pour réaliser que il y a un truc, quoi. Ça joue pas, cette situation. Et me forcer un coup. Et du coup, je demande à Dieu de m'aider à enlever cette léthargie ou cette bouderie spirituelle, je ne sais pas toujours définir, et qui fait que je n'ai pas envie d'écrire les choses que je découvre, que je vis. Ça ne veut pas dire que je ne vis rien, mais c'est juste que je n'ai pas envie de les écrire. Et parfois, ça ne semble pas très important, ou je me dis que je m'en souviendrai, parce que dans la journée, ça a été super important, ça a fait la différence, ou ça a du sens, mais en fait, je me rends compte qu'avec les jours qui passent, souvent, les souvenirs restent vagues et on oublie des détails. Et en même temps, c'est aussi, j'ai vu, tellement précieux d'être à jour, comme je dis, surtout dans les moments délicats et chargés, parce qu'il m'est souvent arrivé de me rendre compte que quelques jours après, en allant relire ce que j'ai écrit, en fait, j'avais reçu spécialement quelque chose que j'avais besoin juste après. Et de pouvoir y revenir dans le fait que c'est écrit, je me rends avant ce qui s'est passé, je me dis, ben, j'ai pas inventé, j'ai pas falsifié ma compréhension. C'est ce que j'avais, ce qui m'avait encouragée et ça m'encourage encore plus. Et la seconde chose que j'ai remarquée, eh bien, c'est qu'il y a une puissance dans le recopiage ou les activités pratiques autour de ces versets. Ça peut être du collage, de la reformulation ou peut-être des chants. Et une de ces façons que j'utilise, bah, c'est de recopier strictement le verset, pas forcément d'écrire l'idée vite fait, c'est de prendre mot à mot. Et en fait, souvent l'écriture met en valeur des mots que je n'avais pas remarqués. Donc la raison pour laquelle j'écris le verset et ce qui se passe pendant que je l'écris, c'est, ça change. Et ça devient super enrichissant. Alors je te donne un cas concret en lien avec notre thème. Avec la fête de l'Ascension qui a eu lieu tout récemment, bien, j'ai trouvé intéressant de relire ce passage dans la Bible. Un verset m'a touchée, donc c'est dans le livre des Actes, début, tout début du livre des Actes dans le Nouveau Testament que j'ai relu. Et puis Jésus est ressuscité à ce moment-là et répond à une question de ses disciples avant qu'il monte au ciel. Ses disciples lui demandent, ben, quand est-ce que ça va être que le royaume va être rétabli, le royaume d'Israël? Et puis il lui dit, il n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu, le Père, a fixés de sa propre autorité. Mais il continue, mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il dit d'autres choses aussi. Et en recopiant le texte, eh bien, c'est là que j'ai réalisé que chacun a son job, en fait, dans l'affaire. Le maître du temps, c'est Dieu. Il tient le timing et ses promesses. Mais il ne nous laisse pas sans rien. Vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit viendra sur vous. Et vous, votre job, c'est d'être mes témoins. Il a autorité et il partage sa puissance pour qu'on puisse être ses témoins de ce qu'il est. Ben, waouh. Moi, ça m'a marqué quand j'ai écrit et j'ai pensé aussi à ce culte qu'on prépare entre mes directives ou les siennes. Le timing, c'est Dieu qui gère. Ok. Et en écrivant ce verset, ben, du coup, j'ai pu continuer à noter rapidement ce qui m'interpellait et c'est resté cogité encore pour que je le raconte. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je te propose de cultiver. Parce que chaque fois que je prends le temps de noter, ben, que ce soit un verset, ça peut être ce qui me marque dans un message ou une lecture, ou même des petites choses pour lesquelles je suis reconnaissante des jours précédents, non seulement ça m'aide à les retenir, mais souvent à les approfondir. Et prendre le temps de le faire, c'est vraiment enrichissant. Et des fois, ça prend même pas autant de temps que ça. Alors voilà, ça m'encourage à moi me battre et à demander à Dieu quand j'en ai besoin de me sortir, de m'aider à sortir de cette léthargie. Et ben, ça m'encourage à te proposer de faire pareil.
Notre promesse du jour se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 27, verset 14. Et ce texte nous dit « Compte patiemment sur le Seigneur, sois fort ». Une autre traduction dit « Ressaisis-toi, reprends courage, compte patiemment sur le Seigneur ». Bon, ben ce texte, comment dire? Des fois, les choses simples marquent assez fort. Hein. Déjà, le « Compte patiemment sur le Seigneur », c'est déjà pas toujours facile de compter sur Dieu dans le quotidien. Ben oui, parce que Dieu, on le voit pas. Alors, on préfère compter sur ce qui est tangible. Les statistiques, les chiffres, un ami, quelque chose qui pourrait nous sembler plus aidant, peut-être. Alors, le patiemment est encore moins facile, en tout cas pour moi, surtout si je suis très pressée de recevoir la réponse de Dieu à un problème que je qualifie d'urgent. Et dans ce texte, l'auteur s'adresse à quelqu'un qui semble découragé, qui a peut-être attendu un secours qui n'est pas venu. Et ça me concerne, j'ai déjà vécu des temps de découragement, toi certainement aussi, cher auditeur, vous aussi dans ce studio. Et l'auteur nous invite à nous ressaisir, à reprendre courage, et il le répète même deux fois, compte patiemment sur le Seigneur, comme pour en souligner encore l'importance. T'en parlais tout à l'heure, Marilyn, d'ailleurs. Hein. Et si ce texte est une promesse, alors d'accord, j'ai envie d'apprendre à compter sur Dieu et travailler ma patience. J'ai envie de voir comment Dieu va agir dans ma situation. Et toi qui nous écoutes, est-ce que tu es capable de le faire aussi?
Aujourd'hui, dans ce culte, on va parler de laisser de la place à Dieu, de laisser la place à Dieu d'être tel qu'il est. Encore faut-il savoir qui il est. Le premier chant que j'aimerais te partager parle d'un Dieu impressionnant qui règne du ciel avec sagesse, puissance et amour. Il est merveilleux et glorieux, son amour nous rend victorieux. Il a écarté la peur. Maintenant, nous le louons car il nous a délivrés. Personne ne peut nous arrêter. Satan ne peut nous arrêter car notre Dieu est un Dieu impressionnant. Il règne du ciel avec sagesse, puissance et amour. J'aimerais continuer à te parler d'un chant qui parle du paradoxe d'un Dieu. Un Dieu qui est infini et en même temps accessible, à la fois intime et en même temps insaisissable. Alors ce chant incite à entrer dans la louange et l'adoration pour pouvoir le saisir et laisser Dieu être tel qu'il est. Voici un extrait de la chanson que je te lis. Incomparable, inatteignable, infiniment différent. Inaltérable, inestimable, plus beau qu'un millier de diamants, mon pied chancelle devant la grâce d'être appelé ton enfant. Face contre terre devant ta face, c'est là que je comprends. Ô Dieu, tu es mon plus grand mystère. Ô Dieu, tu t'environnes de lumière. Dieu, le plus profond de mes secrets, plus loin que je n'irai jamais, plus près que mon cœur ne le sait, intime et étranger.
Pour notre chronique Dieu agit, je vous propose de découvrir un petit bout de l'histoire d'une femme que nous appellerons Cécile. Il y a longtemps, elle a longtemps prié et espéré sans avoir la réponse qu'elle souhaitait. Alors voilà son histoire.
Ce que j'ai vécu pendant 6 ans, car j'arrive à certains aboutissements. Un long processus de souffrance, de dépouillement à travers les épreuves. Il y a toujours eu de ma part une recherche perpétuelle de la présence du Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais qu'il m'a permis de passer avec lui ce long tunnel, sans qu'aucun mal ne m'atteigne pour autant. J'ai toujours recherché la paix dans les relations professionnelles, mais dans le monde du travail, ce n'est guère chose facile. À ce jour, je peux dire que toute bonne action n'est pas forcément récompensée, voire dévalorisée. Mais je sais à présent qu'un jour, les choses, elles bougent. J'ai pu voir la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Cela a commencé en 2016. Là, j'ai commencé un nouveau travail et j'étais tellement heureuse de pouvoir retrouver un poste qui me permettait de sortir d'une situation quelque peu compliquée. J'ai travaillé pendant un an et je me retrouvais dans mon élément. J'étais appréciée. Ensuite, j'ai eu la bonne idée de recommander une personne de mon ancien service, de mon entourage professionnel, à laquelle j'avais donné des livres chrétiens. Je lui ai parlé longuement du Seigneur, des partages bibliques, et tout allait si bien entre nous. Elle m'avait elle-même accueilli dans un service précédent, raison pour laquelle j'avais entièrement confiance en elle. Pourtant, quelque temps plus tard, mon ciel s'assombrissait. Cette personne que j'avais tellement aimée, recommandée à ma supérieure, était devenue ma véritable rivale, voire l'écharde dans ma chair, comme je l'avais lu dans la Bible, dans les Corinthiens de l'apôtre Paul. Bref, cela a duré 6 longues années. Et ces 6 longues années, j'ai postulé à différents endroits, d'où les directives de Dieu et non les miennes, car ma candidature, elle n'était jamais retenue, raison pour laquelle j'étais quelque peu éplorée. Et je voulais changer absolument de poste et fuir cet environnement toxique. C'était un désarroi au plus profond de moi qui me minait, mais pourtant je gardais confiance en Christ. Un jour, j'ai eu un rêve, en 2020, après d'avoir étudié longuement la nuit d'avant. J'étais agacée, triste et sans force. C'est dans cette situation bloquée, mais le Seigneur a vu ma peine. Il m'a consolée et m'a donné cet encouragement précieux. Et m'a donné ce rêve où je voyais ma supérieure qui me regardait toujours méchamment et qui me glaçait le sang à chaque échange, me dévalorisant dans tout ce que je lui proposais. Cette nuit-là, il m'a montré qu'il me couvrait de sa justice et que ses regards hautains de toute personne ne pourraient m'atteindre. Et un jour que j'arrivais dans son bureau, donc dans mon rêve, elle me dévisageait de la tête aux pieds et tout à coup je constate que j'étais en sous-vêtements. Quelle angoisse! C'était vraiment comme si je le vivais. De fait, je me rendis directement dans le bureau d'à côté où un médecin travaillait. Et en enfilant sa blouse blanche pour me revêtir et me couvrir, je ne pouvais pas l'enfiler car je voyais sur moi que j'avais déjà une robe blanche. Et c'est là que je me suis souvenue d'un passage dans la Bible que j'avais lu, que le Seigneur nous dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et qu'il n'effacera point le nom du livre de vie et qu'il confessera son nom devant le Seigneur et devant ses anges. Quel bonheur de pouvoir faire ce constat, cette consolation. Et pour finir, je voulais sortir de cet engrenage. En dépit de cette situation, me vient l'idée de faire du bénévolat pour calmer ma douleur, mon cœur abattu, car toute personne a besoin d'un travail. Et pour la promesse que Dieu m'avait faite depuis ma tendre enfance, il m'avait donné un texte par rapport aux autres, que l'Esprit du Seigneur serait sur moi, que j'avais lu dans Luc 4, 18, alors que j'étais enfant. Et entre-temps, avec le bénévolat, j'ai pu faire des formations pour aider les personnes en situation difficile au point de vue spirituel, car c'était ça mon domaine, de rétablir les cœurs brisés. Et je me dis que tout ce temps, le Seigneur m'a aguerri sur toute mauvaise voie et que si une porte reste fermée dans votre vie, c'est le Seigneur qui le permet, afin que nous croissions en lui et que nous gardions toujours une confiance inébranlable. Et je voulais le remercier pour cela et raison pour laquelle je voulais témoigner aujourd'hui de mon parcours.
Que rien. proclamer que...
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Je ne sais pas si vous avez déjà été au téléphone avec quelqu'un et vous commencez à parler pendant 30 secondes et tout d'un coup la personne vous dit « Bah attends juste un moment » et puis on attend. Hein? On attend et puis on dit « Bah est-ce qu'on raccroche ?»
Alors ça nous arrive dans les administrations mais c'est plutôt avant la discussion. On attend.
Oui et c'est très compliqué. Parce que quelquefois, c'est quelque chose d'urgent qu'on a à dire. C'est important. On a quelque chose d'autre à faire tout de suite après. Et puis, la personne est rentrée dans une autre conversation longue. Et puis, voilà.
On ne sait pas combien de temps ça va durer.
Voilà, on peut trouver ça dans la Bible, vous savez. Dans l'histoire de Jairus. Je ne sais pas si je vais l'appeler Jairus ou Jairos. Parce qu'on a tous les deux dans les textes bibliques. Ça dépend des mm-hmm. versions. Mais j'ai choisi la... Le récit de Marc, Marc chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 43. Alors, je ne vais pas le lire parce que voilà, ça me prendrait tout le temps de ma réflexion, mais je vais juste souligner quelques voilà, mots et événements importants dans ce passage. Donc, on a quelqu'un qui s'appelle Jairos ou Jairus qui est un chef. Religieux, c'est quelqu'un qui est un des chefs de synagogue, qui a une responsabilité, une certaine voilà, responsabilité, leadership dans la communauté juive, et qui a un problème, un souci personnel, parce que sa fille est malade. Bon, quand on a un fils ou une fille malade, et je ne sais pas s'il avait d'autres, mais quand on dit sa fille, on imagine qu'elle pourrait être la fille unique. Bon, on s'est dit, bah, si j'étais à sa place, j'aurais été un peu désespéré. Et je pense qu'on peut voir ce désespoir-là dans le texte biblique, parce que le texte dit qu'ils étaient au bord de la mer et Jairus apparaît. Voilà, il arrive en voyant Jésus, le texte dit « il tombe à ses pieds ». Si vous lisez les évangiles, ce n'est pas tous les jours qu'on va trouver un chef religieux à faire ce geste-là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quelqu'un qui va se prosterner devant Jésus, un juif, c'est pas n'importe, voilà, c'est pas peu de choses, je veux dire. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une attitude d'adoration, mais je dirais plutôt de supplication. Voilà, il a un problème, c'est un problème grave, parce que le texte dit, quand il parle, hein, c'est Jairus qui parle à Jésus, « Ma fille est sur le point de mourir. » C'est pas une grippe. C'est quelque chose de grave. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle avait, mais c'était vrai qu'elle ne pouvait pas survivre avec ce problème. Mais ce que je trouve intéressant, et peut-être quand on lit le récit de Marc, Matthieu, on ne le voit pas clairement, mais il dit à Jésus, « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Bon, il faut remarquer que sauver dans le Nouveau Testament, il faut le comprendre, qu'elle soit guérie, sauver ou guérir, c'est la même chose. Ça a le sens plutôt littéral, mais en même temps, ça a le sens spirituel. Ça peut être la guérison physique, mais la guérison spirituelle. Mais dans ce cas-là, Jairus parlait de la guérison physique, parce que sa fille était vraiment malade. Donc, on a l'impression que Jésus se lève et qu'il suit Jairus. C'est là où l'appel est interrompu et on attend. On attend. Donc, Jairus attend. Et il y a une dame, qu'on imagine, une personne qui est plus âgée, en tout cas, que cette fille. On ne sait pas son âge, mais c'est quelqu'un qui était malade depuis 12 ans. Bon, c'est curieux parce qu'à la fin, on nous dit aussi que la fille de Jairus avait 12 ans. Voilà, 12 ans que la fille a et 2 ans que cette dame est malade. Je vous pose la question, si vous étiez à la place de Jésus, on a une personne âgée qui est malade depuis 12 ans et on a une jeune fille qui vient de commencer sa vie et qui est malade. Voilà, laquelle vous allez choisir?
Ah, ça, c'est toujours la grande discussion. Hein.
Pas facile. Hein. On peut raisonner de plusieurs manières. Bien sûr. Peut dire, la dame a attendu 12 ans, elle peut attendre encore un petit peu, n'est-ce pas? ou on peut dire, elle a déjà vécu des choses, mais cette fille n'a pas eu l'occasion de vivre des choses. Donc, on va donner la priorité à la fille, tu vois. Mais Jésus agit d'une manière complètement différente. Ça veut dire qu'il ne va pas rentrer dans nos schémas, il ne va pas choisir l'une ou l'autre, parce qu'à la fin, on va voir qu'il va répondre aux deux en même temps, n'est-ce pas? Parce qu'il va guérir la dame, il va guérir aussi la fille de Jairus. Mais il y a un moment d'attente qui perturbe beaucoup Jairus, parce que c'est comme si sa foi commence à disparaître, sa confiance commence à disparaître, parce que c'est comme quelqu'un qui prie, il n'y a pas de réponse, comme dans l'histoire qu'on vient d'entendre. Donc, il commence à désespérer. Donc, Jésus prend le temps de guérir cette dame. Et puis, le moment où les gens qui étaient chez Jairus arrivent pour donner la nouvelle, c'est trop tard, Jairus. On a l'impression qu'il est en train d'insister encore, parce qu'ils sont venus vers lui pour lui dire, « Ça ne vaut plus la peine. Oublie. Ta fille est morte. »
Oh.
Terrible, hein? Mm-hmm. Terrible. Quoi faire? Qui pensait de Jésus? Qui pensait de Dieu? Qui, dans des moments plus difficiles, les plus difficiles, il ne répond pas. C'est un silence qui dérange. Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Jésus regarde Jairus et prononce cette phrase, « N'aie pas peur. » Crois seulement. N'aie pas peur. Crois seulement. Est-ce que ça vous suffit d'entendre ça?
Moi, je lui aurais dit, franchement, t'as un peu tardé quand même.
Oui. Et vous savez, c'est la répétition d'un schéma qu'on va trouver chez Lazare. Mm-hmm. C'est la même chose. Hein? Les sœurs sont là en train de souffrir. Jésus est juste à côté parce qu'il n'était pas vraiment très loin. Et puis, il prend son temps et il ne vient pas tout de suite. Et voilà. Et, mais quand il arrive, il va chez Jairus. Il va le suivre. Ça, pour moi, c'est encourageant parce que même si ça prend du temps, Jésus va quand même répondre. N'est-ce pas? Et si Jésus a évoqué le besoin de foi, ça veut dire que Jairus avait besoin de développer quelque chose en lui. C'est pas, tiens, on a besoin de quelque chose, on demande. C'est comme quand on va à la machine là, pour faire le retrait d'argent. Ben, on a besoin d'argent, on met la carte et puis tout de suite après, voilà, il y a de l'argent. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, il y a tout un processus compliqué à assimiler, à accepter, mais ça fait partie aussi de notre parcours spirituel, de notre croissance. Et je pense que Jairus n'est pas sorti le même Jairus. Après cet événement, il a compris quelque chose. Et je remercie parce que Marc a voulu garder ce récit. D'ailleurs, ce n'est pas que Marc, il y a Marc, il y a Matthieu et Luc aussi qui vont garder ce récit pour nous montrer, voilà, quelquefois, c'est nous qui faisons la même chose que Jairus. Bon, il arrive et vous allez remarquer qu'il va simplement rentrer chez cette personne, chez Jairus. Il va dire en araméen, « Talita koum, fille, lève-toi. » Est-ce que vous avez vu l'imposition des mains? Non, il n'y a pas d'imposition des mains. Tiens, Jésus peut guérir sans imposer les mains. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tiens, j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui prient et qui disent, par exemple, quand ils cherchent un copain, une copine, et qui disent, « Seigneur, je vais dans ce restaurant-là, c'est la première personne que je vais trouver, c'est celle-là. » Bah, oui, Dieu peut rentrer dans le jeu, hein? Mais il n'est pas obligé de le faire. Du coup, il peut faire autrement. Et c'est là qui est difficile. Moi, j'ai pris 5 leçons qu'on peut apprendre de cette histoire. Voilà, un Jairus qui arrive et qui donne des ordres à Jésus. Jésus qui prend son temps. Voilà, on a l'impression qu'il va le faire tout de suite. Il ne va pas le faire tout de suite, mais il ne va pas refuser non plus. Donc, il prend son temps, mais après, il va faire quelque chose qui va dépasser l'attente de Jairus. Et c'est magnifique. La première chose que j'apprends, moi, c'est, voilà, il faut lâcher prise de nos directives. Donc, ce n'est pas nous qui donnons des ordres à Jésus, à Dieu, quand nous prions, mais c'est plutôt, voilà, il faut lâcher prise, il faut laisser Dieu être Dieu, n'est-ce pas? Pas essayer de changer. Deuxième chose, c'est qu'on est appelé aussi à avoir une relation de confiance totale en Dieu. Donc, ce n'est pas une confiance partielle. Si tu viens, tu guéris ma fille, ça va. Mais si tu ne guéris pas, je suis en problème, en difficulté. C'est comme si tu n'existais pas. Tu n'existes plus, tu vois. Il y a tout ce conflit-là qui est compliqué de quelquefois à gérer. Voilà, il faut vraiment faire confiance totale à Dieu. Troisième chose, c'est être ouvert à la façon dont Dieu agit. Hein? Ce n'est pas par l'imposition de main, mais c'est en prononçant une parole. Et c'est marrant parce que j'ai sauté cette partie-là, mais comment la dame a été guérie? Elle a touché le vêtement de Jésus. Pas d'imposition des mains. Donc, Jairus a pu voir ça. Ah, au final, Jésus peut guérir sans imposer la main sur quelqu'un. Donc, être ouvert à la façon dont Dieu agit. Quatrième chose, c'est la puissance de la foi. Là, c'est là où je trouve c'est important. On a parlé de foi, de confiance. Ben, on peut traduire le mot foi. Je pense que c'est mieux traduit par confiance, par le mot confiance. Mais ça vient d'une relation avec Dieu. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Okay? Dernière chose, c'est reconnaître les bénédictions au-delà de nos demandes. Des fois, on demande quelque chose, on donne des directives, mais Dieu nous surprend. Il faut l'accepter et remercier. C'est ce que je voulais partager avec vous.
Entre donner des ordres à Dieu, choisir un plan B ou vivre dans une confiance totale en Dieu, il y a un gap qui est immense. D'où cet échange, mes directives ou les siennes. Merci en tout cas, Rico, pour ce partage. Parole à vous, parole à nous dans ce studio pour un temps d'échange. Et toi, ça te parle? Qu'est-ce que le partage biblique vous a apporté comme échange, comme compréhension? Peut-être aussi quel lien concret vous faites avec votre quotidien? Parole à vous.
Tu veux commencer?
Oui, oui. Ben moi, j'étais surprise et ça m'a beaucoup touchée. Il y a un aspect où, dans ce que tu disais, de ne pas donner des ordres, je me suis dit, je crois que malgré tout, on peut exprimer notre besoin. En fait, l'idée que tu veux partager, je crois, c'est qu'on peut dire son besoin, mais laisser Dieu être maître de la façon, du moment, et rester confiant dans la façon dont il va répondre, parce qu'au final, il nous aime, donc il prendra soin de ce qui nous tient à cœur. Enfin, c'est, en tout cas, c'est un aspect que je me suis dit, peut-être ça...
Tout à fait.
C'était intéressant. Mm-hmm.
Le côté aussi où tu as fait la comparaison avec le retrait, quand on va dans un retrait pour retirer de l'argent, ça arrive tout de suite. Quand on veut un colis, il faut que ça arrive le lendemain. Et on est dans une société d'instantanéité, en fait. Et ça nous invite à vraiment avoir dans notre relation avec Dieu ce temps que Dieu a aussi, et pas juste dire je demande ça et ça doit arriver. Pourtant, c'est demander, demander et vous recevrez. Oui, mais demander, mais on ne sait pas forcément quelle est la durée où on va recevoir. Par contre, comme tu as dit, il a agi dans les deux cas, il a agi à sa manière, pas à notre manière. Et donc là, il y a toute cette dimension-là qui est, je trouve, très interpellante dans ce que tu as dit.
Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que tout n'est pas perdu. Et je crois que vraiment, dans cette histoire de Jaïrus, c'est un bout d'histoire que moi, j'aurais pu vivre aussi, de me dire, mais j'ai demandé à Dieu son secours, son soutien. Et puis finalement, toute l'histoire de ma vie me montre qu'en fait, c'est foutu. C'est terminé, il n'y a plus d'issue. Et voilà, ces soldats viennent lui dire, ou ses serviteurs viennent lui dire, écoute, ta fille est morte, c'est foutu. Hein. T'as envie de dire, Seigneur, c'est bon, quoi. Et puis d'être très fâché contre lui, toute la colère et tout ça. Puis, c'est là qu'on se rend compte dans cette histoire, ce récit incroyable, c'est que même quand toutes les circonstances démontrent dans notre quotidien que c'est foutu, peut-être que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ça me parle parce que je me dis, mais... Je suis parfois tellement défaitiste parce que ça s'est pas passé comme j'avais voulu. Peut-être que j'avais, comme tu le disais tout à l'heure, dit à Dieu, alors voilà, je vais rentrer là maintenant, et puis il va se passer ça, puis il se passe pas ça. Et puis je me dis, c'est terminé. Et Dieu, dans toute sa splendeur, est en train de me dire, dans tout cet apprentissage, attends, c'est pas fini. C'est pas fini, ne renonce pas. Et j'ai parfois peut-être trop tendance à lâcher prise, à lâcher l'affaire et à abandonner, alors que Dieu n'a pas tout à fait terminé avec moi. Et je me dis, là, il y a quand même des belles surprises qui nous attendent dans cette vie de foi, de se dire, attends encore un tout petit moment, patiente. Et comme tu dis, brillant, dans notre société, on est tellement appelé à avoir les choses tout de suite, et puis ça vient pas tout de suite avec Dieu. Le temps de Dieu est différent. Laissons peut-être un petit peu plus de temps à Dieu d'être Dieu, comme tu le disais.
Et vous savez, ce texte m'impressionne. Parce qu'on voit que Jésus va quand même aller chez lui. Mais on connaît l'histoire d'un autre père à qui Jésus a dit, voilà, rentre chez toi, il est déjà guéri. Mais là, on a l'impression que partiellement, Jésus va faire ce qu'il a demandé. Mais en même temps, Jésus va changer des aspects pour montrer, non, ce n'est pas exactement comme tu attends. Je pense qu'il le fait aussi avec nous.
Et puis, le côté aussi parole, reconnaître que Dieu agit. Là, tout à l'heure, toi, tu as évoqué le fait de se souvenir que tu avais du mal à écrire parce que tu te dis, je m'en souviendrai dans 2 ou 3 jours. Puis après, ça se perd. Et je pense que dans cette expérience où on doit patienter, où on doit parfois attendre, se souvenir de ces paroles que Jésus a dit. Et puis nous, actuellement, on a aussi la Bible qui nous permet de nous rappeler que Dieu a agi en son temps, mais qu'il a agi.
Et je trouve beau aussi comment Dieu a rejoint ce besoin de foi, enfin, ce moment fragile où on se dit que tout est perdu. Et Dieu, il est venu le rejoindre avec 2 mots. Il pouvait tenir qu'avec ça. Et je trouve que c'est beau. Et il y a aussi un aspect qu'on n'a pas trop parlé, mais qui m'a marqué en discutant, c'est quand il arrive chez la fille, il dit de faire sortir tout le monde. Parce que oui. Tout le monde est en train de pleurer, oui. Ça fait les décès, c'est le décès. C'est... Oui. Et ça m'a fait penser à dans cette situation où on veut faire confiance, où Dieu nous dit, ben, fais confiance, est-ce que je fais sortir tout le monde, pas des gens, mais les Jérémiades, les plaintes et les compagnies. C'est ça. Bon, je vous laisse, je ne sais pas si ça fait écho chez vous, mais chez moi, je me suis dit, tiens.
Bah, ça me fait aussi écho dans le sens où parfois on s'entoure aussi, alors là, je pense au-delà de juste de sensations, de sentiments, tout ça, mais de personnes aussi qui vont nourrir cette attente insatisfaite, qui vont nourrir cette réponse précipitée de Dieu qui ne vient pas, et puis ça doit venir tout de suite, et puis... Et du coup, peut-être à trop écouter tous ces échos-là, on est moins dans l'intérieur et dans cette relation avec Dieu qui nous dit « Attends, ça vient, attends.
Oui. » Mmh. Le problème, c'est que des fois, c'est logique ce que les gens disent. Et on a l'impression qu'ils ont raison. Hein? Tu as vu? Il n'est pas venu. Ta fille est morte. Mais c'est là qu'on se trompe, en fait. Mmh.
Logique humaine.
Oui.
Merci pour ces échanges.
Nous voilà dans la chronique Questions et Vérités. Alors, Eurico, tu as accepté de te soumettre à notre petit jeu de questions et de réponses sur ta vie de foi, pardon.
Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais oui.
Ça va le faire, t'inquiète pas. Nous aimons prendre le temps de découvrir, parce qu'au-delà du théologien que tu es aussi croyant avec, j'imagine, un vécu personnel avec Dieu. Ouais. Parce que Dieu, ce n'est pas que de la théorie, mais c'est aussi une relation qui se vit au quotidien. Alors, est-ce que tu es prêt?
Oui.
Alors, c'est parti.
Alors, as-tu un verset préféré?
Si, Jean 3,16.
Ah.
C'est un verset que les enfants aiment beaucoup aussi.
Mm-hmm.
Et moi, je l'aime beaucoup. Et voilà, je l'avais ouvert déjà. Hein? Mm-hmm. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Mmh. J'aime bien le lien qui existe entre l'aimer et donner. Aimer et se donner. Et je vois ça ici, c'est, pour moi, c'est l'invitation aussi à donner, mais aussi à se donner, voilà, donner à l'autre. C'est magnifique.
Super. Est-ce que tu as un livre de la Bible vers lequel tu reviens souvent?
Oui, Plus maintenant, parce que voilà, je prêchais beaucoup sur le livre de Jonas.
Okay.
C'est mon livre préféré de la Bible.
Dans l'Ancien Testament, du coup.
Dans l'Ancien Testament. Mmh. Et mes enfants m'ont dit, papa, tu prêches toujours sur Jonas. Parce qu'une fois, j'ai fait 4 églises d'affilée, hein, 4 sabbats d'affilée, Jonas, Jonas, Jonas. Et mon fils aîné m'a dit, est-ce que tu n'as pas d'autres choses à prêcher? Parce que nous, on commence à connaître déjà par cœur le message. Oui, mais c'est le livre de Jonas, je trouve très intéressant l'appel et comment il réagit. En fait, je valorise beaucoup l'aspect, la dimension humaine qui va apparaître dans ce texte-là.
Mmh. Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de prier. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes manières pour prier?
Ah, ça, c'est très intéressant. Quand j'ai connu la foi, je suis venu à l'église, j'entendais les gens qui priaient avec des formules complexes, hein, des titres qu'ils donnaient à Dieu, c'est très compliqué. Et je pensais que je ne savais pas prier parce que je ne connaissais pas ces mots-là pour dire des choses et tout ça. Et puis, moi, quand je priais publiquement, j'étais obligé aussi d'adopter un certain nombre de titres et tout ça pour faire beau et tout. Mais j'ai senti que ça n'avait pas de puissance. Et j'ai découvert que c'est mon moment privilégié. Ce n'est pas quand on m'invite à prier publiquement, mais c'est quand je suis seul avec Dieu, j'enlève tout. Il n'y a pas de formule, je suis direct avec lui. Je le traite comme si c'était quelqu'un qui est en face de moi. Et je lui dis, cache tout ce que je ressens. Sans filtre. Et je dis tout ce que j'ai besoin. Et puis, tout d'un coup, je me sens en paix. Et ça fonctionne. Voilà.
Est-ce que tu as un chant chrétien que tu affectionnes particulièrement?
Oui, et ce n'est pas en portugais, par contre. Ce n'est pas en français. Je connais moins les chants en français. D'accord. Mais c'est le chant « Amazing Grace ». Interprété par Wintle Phipps, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un adventiste américain qui chante très bien ce chant-là. Mais j'ai découvert aussi une version de Lina Rimes, quelque chose comme ça, une dame aussi qui chante ce chant-là magnifiquement.
Ok. Et puis pour terminer, en lien avec ton partage biblique, as-tu un petit exemple d'une fois où tu as, comme tu as évoqué dans ton partage, voulu donner des ordres à Dieu? Oui. Ou faire des demandes avec des exigences si spécifiques qu'elles ne laissaient pas la place à Dieu pour être Dieu, tout simplement. Et comment ça s'est passé pour toi?
Oui, je vais essayer de résumer. Mais il y a eu un moment dans ma vie, c'était en 2008 à peu près, il y a eu une grande crise en Europe. Et puis, j'ai perdu mon emploi. Et ça faisait 3 mois que je ne pouvais plus payer le loyer. Donc, j'ai commencé à prier et je suis allé faire une formation de colportage pour redémarrer ma vie, aller changer de métier, voir si je pouvais payer le loyer. Et donc, pendant cette formation qui durait 10 jours, j'ai eu vraiment des moments seuls avec Dieu et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai 3 mois de loyer à payer. Et là, en rentrant, je ne sais pas comment je vais faire, comment les propriétaires vont réagir. J'ai besoin d'une maison gratuite et j'ai besoin d'un travail. Donc, et j'ai besoin aussi que le propriétaire accepte que je ne paye pas les 3 mois là tout de suite et qu'on m'accorde le temps. Donc, j'ai besoin de 3 choses. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? J'ai ce jour-là, ça c'est vraiment une réalité. Je arrête de prier. Mon épouse m'appelle. Elle me dit, bon, je vais te dire quelque chose, mais en te connaissant, je sais que tu ne vas pas accepter. Parce qu'elle trouve que des fois, je n'aime pas accepter des choses des autres et tout ça. Elle me dit, il y a une sœur qui m'a appelé en disant, elle ne savait pas qu'on était en difficulté. Hein. Elle dit, est-ce que vous accepterez d'habiter dans notre maison? On a une petite maison, c'était à mon fils, à notre fils, mais il est parti. Donc, on a cette maison libre. Est-ce que vous accepterez de venir habiter ici?
Gratuitement. Donc,
gratuitement.
Alors qu'elle ne savait pas votre situation.
Elle ne savait pas. Et puis après, le propriétaire aussi acceptait. Non, ça arrive à tout le monde et c'est un moment compliqué. Non, vous payez quand vous pouvez. il y a pas de problème avec ça. Dieu a répondu exactement
à tes exigences.
Mais je suis conscient que j'étais très exigeant.
effectivement. Ouais. Bah, tu vois, tu es bien arrivé, c'est super. merci de t'être prêté à ce jeu de questions avec authenticité.
Merci.
Alors après ces échanges, ce partage, toutes ces réflexions, on aime bien prendre un temps pour clôturer avec Dieu avant de passer à l'action. Alors aujourd'hui, nous avons réfléchi à cette confiance à développer pour se laisser paisiblement accompagner et être conduit. Mais je voudrais te proposer de prier avec nous, Eric.
Okay. Ouais, là, ça va être une prière publique. Voilà, je vais l'appeler oui. Père. Hein?
D'accord.
Père Céleste, merci. Merci infiniment pour ce moment très agréable que nous avons passé ensemble autour de cette question, mes directives ou les siennes. Je te demande de nous aider à comprendre comment on doit avoir cette relation avec toi. Mais surtout, je te demande de pouvoir faire en sorte qu'on te connaisse vraiment, qu'on puisse t'aimer vraiment et qu'on puisse te parler franchement. Nous comprenons que c'est toi qui fais tout. On te laisse être Dieu, mais on te prie aussi de nous accompagner. Tu sais que nous avons des faiblesses, des besoins. Sois avec nous. Merci pour tout. Merci aussi de rentrer dans nos jeux des fois, dans nos besoins, dans nos exigences. Merci infiniment. Amen.
Amen.
Alors, avoir confiance, comme tu l'as dit Marina, comme on l'a tous dit d'ailleurs, avoir confiance, c'est pas évident, on veut quelque chose de tangible, de palpable. Alors, quel type d'action dans la semaine on pourrait bien avoir ?
On t'attend.
Alors, peut-être un défi plutôt simple. Alors, en apparence, même si la flemme peut nous rattraper, répète cette phrase quand tu es découragé, que tu perds espoir, que tu te sens abandonné. Alors, si tu es tout seul, tu peux même le dire à haute voix. Les mots ont parfois une portée différente dit à l'oral. Répète ces mots simples. Compte patiemment sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage, compte patiemment sur le Seigneur. Bon, tu l'auras peut-être reconnu, hein, c'est le verset du jour qu'a choisi Marina. Alors que ce verset puisse t'accompagner dans les moments de doute, de difficulté, de souffrance, d'attente. Et qu'elle puisse, par-dessus tout, augmenter ta relation de confiance avec Dieu lui-même.
Merci Brian de nous mettre en tout cas en action pour cette semaine. Auditrices, auditeurs, nous arrivons à la fin de notre culte espoir. Je suis reconnaissante en tout cas que tu sois restée jusqu'ici pour partager avec nous ce moment spécial. Je remercie nos chroniqueurs du jour, Brian, Marilyn, pour
merci
vos chroniques riches, variées. Merci également à Cécile, ce nom d'emprunt, mais pour ce témoignage fort qu'elle nous a livré. Et merci Eurico Correa pour ce temps de partage qui a été possible et que tu nous as partagé. Je remercie Dieu de nous avoir accompagnés durant ce culte espoir. Que Dieu marche avec nous durant cette semaine qui s'ouvre devant nous et que nous apprenions à le laisser agir à sa manière et en son temps dans notre vie. Waouh, quel défi! Bon chemin vers la confiance en Dieu. Bye!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.